manquez pas la 3e édition de la Biennale internationale d'art numérique du 3 juin au 3 juillet et la 17e édition du festival Electra du 1er au 5 juin sous le thème Automata, l'art fait par les machines pour les machines à l'Arsenal Art Contemporain. Découvrez plus de 60 œuvres et performances dont Inferno, les 25 exosquelettes de Louis-Philippe Demers et Bill Vorn. Rendez-vous pour la nuit Automata le 3 juin à l'Arsenal. Plus d'infos, bianmontréal.ca.
Du 27 au 2 juillet, c'est le Minifest au Medley Simple Malte. Plus de 65 artistes lors de 22 spectacles, dont Eddie King,
Fred Dubé,
Yannick Demartino,
Gabriel Caron,
Didier Lambert,
Jean Beauchesne,
Daniel Grenier,
Chantal Lamarre
et plusieurs autres.
Le Minifest, le 19e plus gros festival d'humour à Montréal.
Pour plus d'infos et pour vous procurer des billets, www.festivalminifest.com. L'Auto-Québec présente la 30e édition anniversaire du Festival international des Nuits d'Afrique à Montréal. Plus de 700 artistes du monde entier viennent à votre rencontre du 12 au 24 juillet. Profitez des forfaits spectacles et découvrez toute la programmation sur www.festivalnuitsdafrique.com.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Croyez-vous que les médias ont une part de responsabilité dans votre défaite?
Pas du tout. Les médias ont toujours raison. Les médias ont toujours raison.
Bonjour à tous nos auditeurs, bienvenue à l'émission La Photo Média sur choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Ce soir à l'émission, une équipe entièrement féminine, nous avons Myriam Bernet, Camila Rodriguez-Ca ainsi que Marie Chabot-Johnson ce soir pour notre émission. Bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc aujourd'hui à La Photo Média, on tente de faire la distinction entre médias communautaires, alternatifs et indépendants. Et on met en contribution un peu l'expérience de chacune pour ce faire. Donc, premièrement, Camila, tu vas nous parler des médias communautaires, puisque c'est ceux-là que tu connais le mieux.
Ouais.
Pourrais-tu faire un peu le point sur la question?
Bien sûr. On peut facilement avoir une idée floue de ce qu'est un média communautaire, et c'est normal. Si on les oppose aux médias mainstream, ce ne sont pas ceux qu'on côtoie le plus. C'est pourtant curieux parce que, de par leur définition, ce sont des médias de proximité, des médias qui parlent aux communautés, qui sont ancrés dans leur communauté. Donc, on sait par contre que ces médias-là, les médias communautaires, ont la vie dure, comme toute les sphères de la culture, il manque de financement. Et je me suis demandé ce que le gouvernement, celui qui finance, pensait de la question. Et voici ce qui introduit le sujet sur la page du gouvernement de la culture et des communications du Québec. Et je cite « Les médias communautaires jouent un rôle essentiel pour le secteur des communications. Dans un contexte de concentration des médias, ils représentent un outil indispensable au rétablissement d'un certain équilibre de l'information et au maintien d'une diversité des voix dans notre société. »
On a l'impression que c'est pas la même personne qui a écrit ça et celle qui décide des coupures budgétaires.
Exactement! Ben, d'abord, on parle de société dans cette définition-là, ce qui présume tout de même, selon Wikipédia, de la présence d'un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions. Et vous me direz, mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne pourrait pas parler de société? On vit bien dans la société québécoise, la dernière fois que j'ai vérifié, non?
Oui, mais non.
Non, exactement. Parce que chaque État gouverne selon une ligne de pensée, une idée, une idéologie, sur la manière dont le monde devrait fonctionner. Pour la Russie des années 1960, cette ligne de pensée s'appelait le communisme. Pour le Québec de René Lévesque, c'était la social-démocratie. Et pour Philippe Couillard et son équipe, c'est le néolibéralisme. Et qu'est-ce que ça mange en hiver, le néolibéralisme? Le filet social. Je veux pas trop vous faire un cours de sciences politiques, j'aimerais ça, mais je sais pas si nos auditeurs aurait autant de plaisir que moi, mais contentons-nous de spécifier que le néolibéralisme préfère traiter avec les individus plutôt que les groupes. C'est le règne du « je » plutôt que du « nous » qui caractérise la société. Dans la manière dont le gouvernement dépense son argent, il favorise les actions individuelles, l'entrepreneuriat et le modèle du « self-made man », ce presque mythe dans lequel la personne part de zéro et grâce à sa détermination réussit à gravir tous les échelons de la société.
Merci Camilla pour ce petit cours de sciences politiques express.
Ça fait plaisir.
Mais tout ça, le néolibéralisme, ça sous-entend aussi que si on réussit pas, que si on est pauvre sur le bien-être social ou encore on travaille au salaire minimum, c'est notre faute et celle de notre paresse.
Oui, et ce modèle s'applique également aux médias. Si on ne sait pas trop ce que les médias communautaires sont, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas assez bons ni assez travaillants. Si vous me suivez toujours dans mon sarcasme, sachez que les médias communautaires doivent être reconnus par le ministère, celui-même qui le tient en priorité absolue, comme tout ce qui est culturel. Pour se classifier, donc, il faut être autonome et à but non lucratif pour se classifier en tant que média communautaire officiel au Québec.
Oui.
Donc, ni les coopératives ni les radios étudiantes comme Choc ne sont reconnues.
Puis, est-ce que tu pourrais nous donner des exemples de médias communautaires connus?
Oui. À la radio, il y a Radio Centre-Ville et CIBL, évidemment. À la télé, il y a TCF TV, la télévision communautaire de Montréal, mais aussi MaTV, qui est l'exception qui confirme la règle, qui a énormément de visibilité. Ça fait quelques mois, là, je sais pas vous, mais je vois tout le temps leur publicité dans le métro, les gros panneaux. Puis ça, c'est grâce à sa maison mère, Vidéotron.
Oui, ils ont beaucoup poussé ça pour mettre de l'avant.
Ils ont du budget pour MaTV, on dirait. Il est intéressant de noter que les médias ethniques sont aussi très présents à Montréal. Quand on y pense, c'est normal.
Oui.
Il y a donc des journaux et des radios qui diffusent des informations ciblées pour certaines communautés. Je pense par exemple aux journaux italiens ou aux émissions de radio en créole ou en espagnol. Je vais vous laisser avec une citation du directeur de la station de radio Radio Centre-Ville qui diffuse en cette langue. Nous voulons assurer l'intégration des membres des communautés ethniques à la communauté d'accueil tout en mettant l'interculturalité en valeur. Les médias traditionnels ne donnent pas suffisamment la parole aux immigrés et ne reflètent pas la diversité montréalaise, ce qui renforce les stéréotypes. Et ça va chercher un sujet dont on avait traité dans une émission passée concernant les quotas dans les médias, là, puis vraiment le fond est le même. Plus on voit les minorités dans les médias, plus les stéréotypes se défont,
oui.
En fait.
Ça pour ta réflexion. Merci beaucoup, Camilla.
Ça fait plaisir.
Toujours à la faute aux médias, on parle aujourd'hui des médias, qu'ils soient alternatifs, communautaires ou indépendants. Ce sont des médias qui s'éloignent des modèles qu'on connaît avec les grands groupes de presse, les grands groupes médiatiques et même les entreprises qui possèdent des journaux et des magazines. Donc Myriam, j'ai cru comprendre, mon petit doigt m'a dit que tu fais toi-même partie d'un média différent. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, effectivement, Émilien, ton petit doigt a raison. Depuis un peu plus d'un an, j'écris pour un magazine qui s'appelle Maze. Il ne s'agit pas ici d'un média communautaire, c'est un mensuel français en ligne, gratuit, qui a été créé par deux jeunes lycéens en 2011, avec le but de créer un média alternatif. En fait, ils sont partis du principe que la perception du monde et de l'actualité dans les médias traditionnels était vraiment éloignée des préoccupations de la jeunesse.
Oui, puis on sait, c'est souvent le cas.
Effectivement. Et c'est dans le but de pallier à cela qu'ils ont créé Maze. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un magazine dans lequel j'écris. Mon but n'est pas ici d'en faire la promotion en vous disant « Allez le lire, c'est un super magazine ».
Ouais, ouais, c'est ça.
Mais allez quand même le lire, c'est quand même un super magazine.
Mais plutôt de vous présenter un média différent de l'intérieur. Dans mon cas, pour mon cas, j'ai travaillé en tant que journaliste. Je peux donc faire un comparatif. Et en effet, c'est bien différent à plusieurs niveaux. Par exemple, je ne l'avais pas encore précisé, et cela a son importance, mais tous les membres de Maze Magazine sont bénévoles. Personne ne reçoit de salaire. Cela ramène tout de même à une certaine flexibilité, comme on peut l'imaginer, sans pour autant manquer d'engagement et de motivation de la part des membres, car concrètement, le magazine existe grâce à ses environ 90 bénévoles.
Puis c'est assez courant, j'imagine, dans les médias communautaires et alternatifs, le bénévolat.
Exactement, oui, ouais. C'est ça.
Mais d'après cette situation-là que tu nous présentes, c'est quand même un modèle assez particulier, étant donné que tous les membres ont ce statut de bénévole. Ça t'amène à quelle réflexion, tout ça, par rapport à l'avenir des médias en général?
Mais en ce qui concerne mon cas avec Maze, c'est vraiment une superbe expérience. Ça me permet d'écrire des articles sur des sujets qui m'intéressent, d'être publié, de pouvoir les partager. En gros, ça me ramène à ce qu'est pour moi l'essence même du journalisme, tout ce qui est avec l'investigation, les recherches, la vérification des informations, des sources et la publication. Mais ça prend du temps et effectivement, ce n'est pas rémunéré. Justement, dans le cadre de cette chronique, je me suis entretenue via Facebook avec le cofondateur et directeur de la publication de Maze, qui m'a dit ne pas être fermé à l'idée d'intégrer de la publicité au magazine un jour, car en effet, nous étions tous les deux d'accord sur le fait que ça fait maintenant partie des modèles économiques des médias. Mais je pense tout de même que l'intégration de revenus publicitaires change la donne, quoi qu'il arrive, et risque de faire perdre une certaine liberté très appréciable, et je dirais même une liberté rare. Au niveau d'un modèle différent, au Québec cette fois-ci, je pense à la revue L'Esprit Libre, que vous connaissez peut-être, qui a été créée par des étudiants et qui se veut un contrepoids aux médias spectacles, que nous connaissons malheureusement que trop bien. Il s'agit d'un très bon média alternatif qui ne peut pas encore se permettre de rémunérer ses rédacteurs et rédactrices. Alors, je m'excuse par avance parce que j'essaie toujours de terminer mes chroniques sur des notes positives, mais là, c'est un peu un cri du cœur d'une personne, moi, qui a des rêves de journalisme, et je me demande si je vais réussir à trouver l'équilibre entre un salaire décent et une pratique du journalisme qui ressemble à ce que j'ai décrit plus tôt.
Oui, parce que le mécénat ne peut pas tout couvrir. Là.
Exactement. Il ne s'agit pas de dire « Oh, les méchants médias puissants qui ont de l'argent contre les pauvres médias alternatifs qui n'ont pas d'argent », mais plutôt de souligner à quel point c'est difficile de trouver un équilibre entre les deux. Et puis bon, non, je ne peux pas terminer sur une note complètement négative. Alors, disons que tant qu'il y aura des plumes indépendantes et passionnées, le journalisme vivra encore, à condition quand même d'un petit coup de pouce. Alors n'hésitez pas à encourager les médias indépendants, parce que la qualité de l'information que nous recevons en tant que citoyens et citoyennes est un enjeu social et démocratique vraiment important.
On va garder ça en tête. Merci beaucoup, Myriam.
Ça fait plaisir.
Donc maintenant, on se quitte en chanson pour la chanson « Lauren » de « Men I Trust ».
Le voleur de
Vous l'aurez deviné, c'était pas Lauren de Men I Trust, mais bien Écaille de poisson de David and the Woods. On vous fera jouer Lauren de Men I Trust plus tard dans l'émission. Donc, vous êtes de retour à la photomédia sur choc.ca en compagnie de votre animateur Émilien Roscanou. Donc, cette semaine, quelque chose d'un peu plus spécial. On parle des médias alternatifs, des médias communautaires surtout, mais pour un point de vue plus international sur la question, j'ai rejoint en Équateur notre chroniqueuse Marie Chabot-Johnson, qui est en fait en stage dans des radios communautaires à Quito. Donc, on est très heureux de pouvoir l'avoir aujourd'hui en l'émission. Donc, je me suis entretenu un peu plus tôt avec elle aujourd'hui. Bonjour Marie, tu travailles depuis presque un mois avec des radios communautaires. De ce que tu as vu jusqu'à présent, qu'est-ce qui différencie les radios communautaires de l'Amérique latine et celles qu'on connaît au Québec?
Bonjour Émilien. Loin de moi l'idée de me poser en experte sur le sujet, mais avec les quelques formations et les avis professionnels d'ici que j'ai pu entendre, je peux essayer de vous dresser un peu un portrait. En Amérique latine, il y a une riche culture de la radio communautaire et éducative. La semaine dernière, justement, il y avait un grand forum sur les médias populaires et communautaires à Quito qui réunissait des représentants de tout le continent latino-américain. Personnellement, j'ai assisté à une table ronde sur les défis auxquels ces radios font face et justement, je voudrais vous en parler un peu plus. Mais avant de vraiment rentrer dans les détails, je pense que c'est quand même important de voir c'est quoi les caractéristiques des radios populaires d'ici. Sans faire l'historique complète, on est capable de voir que l'Amérique latine a quand même une histoire politique qui est quand même commune. À travers l'Amérique latine, presque tous les pays ont connu une période de dictature. Certains pays, c'était pendant des décennies, d'autres, c'est un peu plus court, mais ça atteint quand même l'histoire politique du continent. Et une des caractéristiques qu'on connaît des dictatures, c'est qu'elles n'aiment pas beaucoup l'opposition. Hein? L'éducation, en général, c'est pas nécessairement son sujet préféré. Et ça, parce que c'est beaucoup plus facile, en fait, de réclamer des droits quand on est éduqué. Donc, une bonne partie du peuple qui vit dans l'ignorance. Et les radios populaires sont nés un peu de l'idée de vouloir redonner la parole au peuple, entre autres pour les éduquer. Pour nous, aujourd'hui, ça semble un objectif qui est louable, c'est humaniste, c'est démocratique. Mais pour l'époque, ça reste que c'est une position qui est politique. Ça s'inscrit en opposition avec le pouvoir qui était en place. Et la plupart des radios sont nées illégalement dans ces temps-là, même s'ils se sont déployés beaucoup plus rapidement dès la fin de la dictature. Et cette tendance politique reste encore là aujourd'hui. Encore aujourd'hui, leur but, c'est vraiment de donner la parole aux marginalisés. Par exemple, on va parler des causes LGBTI, ou encore on va donner le micro directement au peuple autochtone pour qu'ils puissent dialoguer dans leur langue sur les ondes.
Et est-ce que cela pose des défis d'avoir des positions politiques?
Et je te dirais que la plupart des travailleurs de la radio ici que j'ai entendus disent qu'ils prennent le côté du peuple. Ils se revendiquent pas nécessairement politique, mais ça reste qu'il y a une petite saveur politique derrière la chose. Comme leur position ne plaise pas nécessairement à tout le monde, et autant du point de vue idéologique que juste de l'intérêt. Comme c'est pas tout le monde qui a le goût d'entendre parler de gros enjeux de société comme ça en mangeant ses céréales le matin.
Non.
C'est un peu la même chose en Amérique du Nord ou du Sud. Donc d'abord, il y a les défis de rendre des sujets moins populaires plus attrayants pour un large public, parce que ça serait facile de traiter juste des sujets seulement avec des gens qui sont intéressés déjà, que ça resterait trop en vase clos. Les gens veulent chercher un plus large public, parce que ça changerait pas grand-chose aux causes en question si on faisait juste les diffuser dans des gens qui étaient déjà convertis. Donc, justement, il y a d'autres défis. Comment est-ce qu'on peut se faire connaître en tant que radio communautaire? Comment on fait pour offrir un travail de qualité? Puisque même si l'idée est que le contenu est plus important que la forme, ça reste que si c'est trop monotone, on va avoir tendance à changer de poste, un peu comme ici.
Oui, et pour le financement, est-ce que c'est aussi difficile en Amérique latine qu'ici?
Je ne connais pas assez la situation politique de chaque pays pour dire précisément comment ça fonctionne pour chacun d'entre eux, parce que ça reste que c'est un continent complet, il y a plein de pays, plein de situations qui sont différentes. Mais d'après les intervenants au forum, ça reste que le financement est toujours un défi. Le financement, ça reste difficile pour les petites radios. Il y a moins d'auditeurs, donc moins d'annonceurs, les publicités valent moins. Mais en plus, en tant que radio communautaire politique, éducative, on fait un filtrage beaucoup plus pointu de la publicité. Comme il n'est pas question qu'on donne de la pub à des entreprises privées. Donc, à ce moment-là, on va juste se fier sur deux types de financement. Soit le financement public, mais encore là, l'État n'est pas toujours le meilleur ami des radios, parce que souvent, ils sont en opposition avec les gouvernements. Il y a aussi un autre financement qu'on a un peu moins chez nous, c'est celui de l'Église. Mais encore là, ça comporte aussi des désavantages, juste au niveau des sujets qu'on peut traiter. Par contre, maintenant, la bataille de plusieurs radios, elle se fait surtout du côté législatif, à travers des regroupements nationaux de plusieurs radios. Pour eux, c'est surtout l'idée de se faire reconnaître comme un service public pour son côté éducatif puis pour son aide à la participation populaire. Par exemple, on veut que les radios communautaires soient sur le même pied d'égalité que les radios privées. Par exemple, au Brésil, on ne peut pas diffuser plus que 10 km quand on est une petite radio communautaire par rapport à 50 km pour des radios commerciales.
C'est inégal.
On s'entend qu'il y a un désavantage par rapport à toutes les radios commerciales puisqu'ils ont beaucoup moins de diffusion, donc beaucoup moins de public disponible. Mais aussi, au niveau du financement, si elle était reconnue comme un service public, il y aurait un droit important au financement public qui leur serait accordé, comme par exemple l'obligation de l'État de mettre un certain pourcentage de son budget publicitaire dans des petites radios communautaires. Mais pour gagner cette bataille-là, il faut quand même avoir le pouvoir gouvernemental de son bord, parce que c'est pas une cause qui est très populaire, c'est pas un enjeu qui va soulever les foules. Donc, si on veut être capable de se faire reconnaître, il faut que les gouvernements décident de nous reconnaître.
C'était Marie Chabot-Jensen qui nous parlait de Quito en Équateur sur la situation des médias communautaires. Donc, toute une bataille qui fait rage là-bas. Merci beaucoup, Marie. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc évidemment, ici à choc.ca, on se demande souvent quelle devrait être la place des médias alternatifs parce que, évidemment, Choc est un média indépendant, c'est un média étudiant aussi. Donc, avec vos expériences que vous vivez, toi Camilla, tu avais fait partie de la télévision communautaire à Montréal.
Exactement.
Et toi Myriam, à Maze Magazine. Mm-hmm. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que ça serait... dans quelle mesure est-ce que vous pensez que les médias comme ça, alternatifs, peuvent s'imposer dans les médias, dans l'espace médiatique? Parce que c'est quand même très difficile de le faire.
Oui, vraiment.
De percer.
C'est extrêmement difficile de percer, d'autant plus avec l'importance des groupes médiatiques qui possèdent tous les journaux, tous les magazines, tout l'argent qui est injecté là-dedans, les publicités, etc.
Ouais.
Mais j'ai l'impression qu'il y a tout de même une demande importante. En tout cas, je le vois, je peux juste parler à mon échelle dans mon entourage. J'ai l'impression qu'il y a une demande d'autres choses, d'autres médias différents qui sont plus dans des gros articles de fond avec de la recherche, comme... vraiment du recul sur des situations, et c'est exactement ce que font les médias dont j'ai parlé aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression qu'il y a tout de même une demande. Après, de là à s'imposer, c'est aussi à nous, comme je le disais, de les encourager, aller les lire, donner, être membre quand c'est possible, ou oui. Quoi que ce soit qui est possible, en fait.
Mais ils se multiplient beaucoup, surtout à l'ère où les médias sont de plus en plus numériques.
C'est
ouais.
vrai.
Puis qu'est-ce qui est vraiment regrettable, c'est les sujets qui sont diffusés dans des... qui sont, en fait, des sujets qui sont... j'ai de la difficulté à faire mon idée, là, mais je veux parler des sujets qui sont pas mainstream, dont on parle assez peu. C'est des sujets, en fait, qui intéressent des sujets qui parlent souvent de minorités. Et ces minorités-là s'expriment à travers les médias alternatifs, ce qui fait un peu comme une boucle que ce discours-là, alternatif des minorités, est pas entendu dans les médias mainstream. Puis c'est vraiment quand un sujet se rend réussi à aller dans les médias mainstream que vraiment la majorité de la population en entend parler. Ça, c'est vraiment, à mon avis, regrettable parce que... C'est un peu comme le self-made man dont je vous parlais tout à l'heure. Là.
Mm-hmm.
C'est comme oui. l'idée qui réussit à vaincre un bataillon d'autres idées, qui réussit à se placer au sommet de la chaîne des idées, de ce qu'on entend, de ce qui est populaire. Donc, c'est assez difficile. Puis à mon sens, ça devrait pas être comme ça un combat, parce que ça oui. mène à ce qu'on voit souvent dans les médias, des clickbait ou alors des simplifications de sujets qui restent assez complexes, mais nous, on les résume en 140 caractères sur Twitter, ce qui, vraiment, pour avoir plus de clics, pour avoir plus de vues, de popularité, puis ça rentre aussi dans le jeu de la publicité, ça fait que les contenus, les rédacteurs ou les diffuseurs, en fait, souvent, ça va être les diffuseurs, vont mettre des titres qui sont très accrocheurs, mais parfois trompeurs.
Oui, puis les grands médias diffusent aussi surtout de l'information qui fait partie aussi de ce qui est entendu en société comme étant des idéologies dominantes. Donc on avait étudié Bourdieu qui faisait cette critique-là. Dans une société très néolibérale, on avait parlé du néolibéralisme tout à l'heure, une société néolibérale où ce courant de pensée-là est dominant, c'est très difficile dans un spot de 2 minutes à la télévision d'expliquer que c'est pas juste ça qui existe, que c'est pas juste ça qui est bon, puis qu'on pourrait améliorer la société de toutes sortes d'autres manières.
Exact, parce que comme dans un débat, par exemple, le point de vue très courant va avoir 2 minutes, admettons pour ou contre la hausse des frais de scolarité. On a 2 intervenants, chacun a 2 minutes pour s'exprimer. Ça semble équitable, mais en fait, celui qui est du côté du gouvernement, du point de vue dominant, a pas besoin d'autant de temps pour expliquer toute son idée, pour la développer, parce que cette idée-là est développée à travers d'une incroyable... diversité de médias et même pas dans les médias, mais du bouche à oreille. Donc, oui. On entend ces idées-là partout et ils n'ont pas besoin de 2 minutes de plus pour les résumer encore plus.
Non, c'est souvent ça le problème, la dualité là, présentée dans les médias. Est-ce que vous pensez que oui ou non, l'être humain a un effet sur le réchauffement planétaire? On sait tous que c'est le cas. Mais quand on présente l'argument pour et l'argument contre et qu'on leur donne un temps égal, c'est un débat qui est faussé dès le départ.
Exact, oui.
Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'était tout le temps dont on disposait. Donc, encore une fois, nous avions Camila Rodriguez-Sea, Myriam Bernet, ainsi que Marie Chabot-Johnson depuis l'Équateur, qui venait nous faire des chroniques sur les médias communautaires et alternatifs. Merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Émilien, pour la chanson de la fin, est-ce que je pourrais suggérer le jeu des accroires?
Oui, tu peux le suggérer. Donc, on va terminer en chanson avec le jeu des accroires de Chantal Archambault. Et dans une prochaine émission, on vous promet, on va vous mettre Lorraine de Men I Trust.
Pas facile aujourd'hui.
Merci, à la semaine prochaine.
Garde tes habits pour veiller, dors. Cache bien tes défauts sous ta gloire, desserrerais-tu la cravate? Garde ton armure pour veiller dehors, tes faiblesses cachées dans tes histoires. Et si je te laisse serais-tu vraiment la garde? C'est à croire que l'on ne peut s'aimer sans personnage, sans maquillage et tout à